Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Bon, bonjour Clément.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
On va arrêter de tacler les connexions internet des uns et des autres. Clément, donc on est là pour parler de statistiques avancées. Et d'ailleurs, on va pas traîner parce qu'il est déjà 18h07. Nous sommes à 53 minutes des matchs et on a un gros programme aujourd'hui. Donc Clément, ça demande la démission d'Anne Hidalgo évidemment pour les connexions internet sur le chat. C'est un classique. De bon augure pour les JO. Ça c'est un autre classique. Dès qu'il y a un truc qui va pas à Paris maintenant, tu sais, c'est genre pour les JO, ça va vraiment être la galère. Bon bref, donc soyons efficaces. Comme dans les statistiques avancées, soyons efficaces. Clément, tu es de retour pour parler statistiques avancées. Notre premier sujet du jour, c'est le titre de MVP. On s'est dit, Clément, il a des super stats hyper précises et il va nous dire qui doit être MVP et ce sera indiscutable parce que les chiffres l'auront dit et que les chiffres ont toujours raison. C'était ça le thème ?
C'était ça le thème.
Ok.
On est un peu tombé à côté.
Et alors, est-ce que je mets le premier graphe ?
Tu peux mettre le premier graphe.
Eh ben alors, c'est pas ça, parce que ça, c'est ma tronche, bouge pas. Ça doit être ça. Voilà, ça, c'est le premier.
Tu peux mettre le premier graphe, parce que cette année, on est quand même une année un peu particulière. De toute façon, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Le MVP, on est sur une année où le MVP est absolument pas évident. En fait, ça se ressent aussi dans les statistiques. Parce que là, le premier graphe qui est mis, que peut-être sans doute beaucoup de gens ont déjà vu passer, qui est en fait en abscisse le complétion pourcentage au-delà des attentes, et en ordonnée les EPA par jeu.
Alors attendez, parce que je suis habitué à la Team Draft qui fait des anglicismes, mais alors là, il me rajoute du complétion pourcentage, donc le taux de passe complété, on va dire en français.
Excuse-moi, là. Et en ordonnée, la statistique qui est un peu la statistique reine des statistiques avancées, qui sont les EPA par jeu. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire un rappel rapide.
Je veux bien,
sur
si.
Ça. Les EPA par jeu, ça fonctionne exactement comme les yards par jeu, sauf que ça quantifie vraiment la valeur ajoutée d'un jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un gain de 3 yards en 3e et 7, n'aura pas le même impact qu'un gain de 3 yards en 3e et 1.
Hmm. Ok. Donc là, quand on lit ce graphique, Brock Purdy est MVP, puisqu'il est tout en haut et tout à droite.
Exactement.
Parce que moi, j'ai fait L, hein, donc je vais donner des termes simples. Il est tout en haut, il est tout à droite. Donc il est on voit que lui.
L'important sur le graphe, c'est qui est le plus haut. C'est le ce qui est en abscisse, donc le ce qu'on appelle le CPOE, c'est une autre statistique qui permet de c'est juste une statistique qui a une stabilité dans le temps, donc qui permet un peu d'identifier chaque quarterback, mais qui est pas vraiment là pour quantifier la performance du quarterback.
D'accord. Pour ceux qui voient pas le graphe, qui écoutent le replay par exemple le lendemain en podcast, car vous pouvez le faire, il faut savoir que Aidan O'Connell est tout à l'opposé. Donc Aidan O'Connell est le plus mauvais visiblement des quarterbacks.
Voilà. Derrière on a du Zach.
Voilà. Derrière on a du Zach Wilson, du Mac Jones. Alors oui, Aidan O'Connell est un peu plus haut, il est un peu plus à gauche. Donc Zach Wilson, Mac Jones, Bryce Young, Josh Dobbs, Kenny Pickett, Kyler Murray. Alors ça c'est un peu plus haut, donc ça va. Sam Howell, Desmond Ridder, Will Levis, tout ça c'est pas bon, ça va pas bien. La question que je vais te poser, donc là, le MVP des stats, c'est Brock Purdy, visiblement. Où est, et alors c'est véridique, en fait, je pose la question parce que je ne le vois pas, où est Lamar Jackson ? Ah si, là.
Il est juste à droite de Patrick Mahomes.
Ouais, il est dans le paquet au milieu de Mahomes, Hurts, Prescott, Allen, il est dans une nébuleuse avec tout ça.
Exactement. Parce que cette année, on touche à un gros point faible, enfin, des EPA, mais qui est le cas de beaucoup de statistiques au NFL, qui est en fait attribué à la responsabilité de chacun. En fait, dans une attaque, c'est très dur statistiquement de dire est-ce que c'est forcément que le quarterback, est-ce que c'est les receveurs, la ligne, c'est forcément un package de tout. Et cette année, on est vraiment au cœur de ce problème. Mmh. Et la première fois que j'étais passé au fauteuil pour parler statistiques, quelque chose que je pense qu'il faut toujours préciser en statistique, c'est que les statistiques sont jamais indissociables des films. En fait, on est forcément obligé de regarder les matchs et du contexte réel sur le terrain. On n'aura pas, et je pense qu'on n'aura jamais, les deux se complètent, mais on n'aura jamais une statistique qui explique tout. Mmh. Sinon, de toute façon, à quoi bon regarder le sport.
Oui. Donc là, encore une fois, parce qu'on va dire, on a mis tout le monde, mais il y a Brock Purdy, il y a Lamar Jackson, c'est les deux principaux candidats. On va pas faire semblant que tu as Tagovailoa, Josh Allen, etc. Bon, donc si on prend vraiment ce problème-là, Purdy contre Lamar Jackson, ce qui explique que Jackson soit dans le paquet, c'est que c'est pas quoi, c'est parce que c'est pas un pur passeur et que du coup il peut pas s'illustrer dans cette stat-là.
Ah si. D'ailleurs, dans les EPA, les courses du quarterback sont autant valorisées.
D'accord. Alors qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans le paquet?
C'est que alors déjà la saison que fait les niveaux qu'on voit de Brock Purdy enfin atteints par l'attaque des 49ers à la passe sont des niveaux qui sont quasiment historiques en fait.
D'accord.
On est des équivalents d'Aaron Rodgers 2011, de Patrick Mahomes 2018, on est quand même sur des niveaux de PA qui sont très très hauts.
C'est pas du tout aussi impressionnant. Ouais.
Exactement, parce que en fait, on a aussi une équipe ultra complète et un coach qui est un peu au cœur de la révolution offensive de la NFL actuelle et qui arrive à, parfois j'aime un peu, enfin ce terme un peu ubériser la position de quarterback, loin de, je veux pas enlever la.
C'est à San Francisco, c'est normal.
Je veux pas enlever le crédit à Brock Purdy sur ce qu'il fait, puisqu'en fait, il y a des choses qu'il fait très bien, mais il a un rôle qui est plus facile que dans certaines attaques traditionnelles.
D'accord. Question technique sur le chat. Plus le rond est gros, plus ils ont joué, c'est ça? C'est le temps de jeu?
C'est plus là, ils ont lancé de passe.
Plus ils ont lancé de passe, d'accord, très bien. Est-ce qu'on passe au numéro 2?
Oui, c'est tu.
Allez, je suis ton PowerPoint, hein, tu me dis. Donc ouais. Ça, voilà, c'est le lien entre le classement en EPA par jeu qu'on vient de voir juste avant, donc dont Brock Purdy est premier. Et donc le lien, c'est, voilà, si t'es numéro 1 depuis 2016, t'es MVP.
C'est ça. Et en fait, on peut remonter, là, j'ai pas fait, mais si tu remontes à 1999, donc les premières, là, on a à peu près des EPA, mis à part les quatre running backs qui ont été élus, il y a que Cam Newton, et il me semble, il y a Philip Rivers qui s'est fait voler un MVP aussi, où il devait être numéro un, mais globalement, à 90% du temps, c'est le numéro un en EPA.
J'aime l'audace de la phrase Philip Rivers s'est fait voler MVP, hein, mais
non, oui, si on suit et ouais, si on voilà. Suit cette corrélation statistique.
J'ai pas souvenir de m'être dit que Philip Rivers s'était fait voler MVP, mais après là, ta stat, parce qu'on est plus sur une stat, Cam Newton 8e en EPA mais MVP. On oui. Revient encore à notre problème de cette année en fait, puisque là c'est ça pourrait très bien être Lamar Jackson à nouveau.
Exactement. Exactement, et parce qu'après, de toute façon, dans le MVP, il y a aussi une question de médiatisation, etc. Mmh. Et Cam Newton, c'est vrai qu'il y avait un effet wow en 2015. Mmh. En plus, il est à tête de la meilleure équipe, qui fait 15-1 cette saison-là, si je ne me trompe pas.
Oui, je crois.
Donc, ouais. Il y avait, ça jouait énormément.
Ouais, donc, ce qui veut dire, encore une fois, qu'on n'a pas vraiment tranché entre Purdy et... Mmh. Parce que Purdy aurait l'avantage de la continuité, mais Jackson pourrait reproduire ce qu'a fait Newton, en fait.
Exactement.
Est-ce qu'on regarde après ce qui s'est passé là? Parce que ça remet du contexte aussi.
Ça, c'était pour mettre du contexte. Parce que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on se dirige à peu près vers Lamar Jackson MVP. En fait, il a un cas particulier, je pense, qui fait que son impact statistique est difficilement quantifiable parce que c'est sans doute une des meilleures doubles menaces que le sport ait connu. Et en fait, je pense que son impact même sur sa façon de jouer sur le terrain, change les packages des défenses et du coup change leur façon de défendre à la course et la passe et donne des opportunités à d'autres joueurs. Mmh. Ce qui est en fait quelque chose qui est intraduisible aujourd'hui au niveau statistique. Mmh. Sur Purdy, là où je voulais juste mettre une petite réserve sur en fait cette année qui est historique d'un point de vue statistique, je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est en fait aujourd'hui on est capable de dire quand un quarterback lance le ballon, combien un receveur devrait gagner de yards après la réception. On est à peu près capable d'estimer ça. c'est théorique en fonction du placement du ballon, du terrain devant lui, de la distance à la ligne, etc. Selon plusieurs paramètres, on est à peu près capable de dire ça. Et généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que les receveurs gagnent moins de yards que ce qu'ils devraient gagner.
Ok.
Pourquoi j'ai mis ce graphe-là ? Parce qu'en fait, on a lu pendant toute la saison, notamment, par exemple, Purdy, il y avait beaucoup de critiques vis-à-vis de lui que son, en fait, la plupart de ses yards venaient après étaient créés après la réception et que du coup, c'était quelque chose de préjudiciable. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça puisque je pense qu'un bon quarterback donne la balle dans les mains de son receveur avec de l'espace.
Alors, attends. Là, ton graphe, il est en train de me dire que Brock Purdy, il est encore plus efficace que les autres. Parce que moi, honnêtement, à première lecture, je me disais, il bénéficie de ses receveurs qui gagnent plein de yards après réception.
Alors, justement, c'est ça. Ce que je disais, c'est que moi, j'ai voulu aller un peu plus loin que juste regarder en fait les yards après réception. Mmh. Parce que pour moi, c'est pas juste de le pénaliser. Parce qu'en soi, ça pourrait être lui aussi qui lance, et c'est sans doute aussi un peu le cas, qui lance bien le ballon et qui permet à ses receveurs de gagner des yards après réception. Là, ce qu'on voit sur le graphe, c'est que c'est quasi le seul quarterback de la ligne qui bénéficie positivement. Donc, c'est-à-dire que ses receveurs gagnent plus de yards que ce qu'ils devraient en gagner.
D'accord. Donc, il bonifie un peu. Enfin, en tout cas, l'attaque bonifie. Le problème, c'est de savoir si c'est Purdy ou l'attaque, le système offensif qui bonifie.
Alors, il y a forcément toujours un peu des deux. Mais en tout cas, c'est le seul qui a des receveurs qui... Alors, il leur donne la balle dans les mains. On va dire, si on schématise, il gagne les yards qu'il devrait gagner, que lui leur permet de gagner, le schéma leur permet de gagner.
Mais encore
et
plus.
Après ça, eux, ils en gagnent encore plus.
Ok, très bien. Lamar Jackson est troisième, vous le voyez, il est là. Il y a Jared Goff et Lamar Jackson, donc qui est troisième sur cette stat. On va passer à la slide suivante parce qu'il y a quelqu'un qui disait sur le chat, je suis désolé, j'ai pas vu qui c'était, qui disait, je suis impatient qu'on parle de CMC, de Christian McCaffrey. Tu veux parler de quelqu'un d'autre avant ?
Moi, je veux parler de quelqu'un d'autre. Je pense, en termes de, si on doit pas le donner à un quarterback aujourd'hui, je pense que un des joueurs les plus impactants de cette saison et de la NFL depuis qu'il est chez les Dolphins, c'est Tyreek Hill. Tyreek Hill, dans une des statistiques qui est les plus parlantes pour un receveur, qui sont en gros les yards par route courue, il est seul au monde, totalement seul au monde, à des années-lumière du reste de la ligue. Je pense en plus qu'il incarne d'une certaine manière la révolution qui a lieu en NFL avec où justement il y a beaucoup plus de mouvements avant le snap. Il incarne ça parfaitement chez les Dolphins et je pense que c'est peut-être le joueur offensif le plus important de la ligue hors quarterback aujourd'hui.
Alors question yard par route courue, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est à chaque fois qu'il y a une action de passe par les Dolphins ou
À chaque fois qu'il est sur le terrain, en fait, à chaque fois qu'il y a une passe et que lui il court une route, en fait, on prend son total de yards qu'on divise par le nombre de routes qu'il a couru.
Très bien. Ok. Donc là-dessus, il se détache. Autre stat sur Tyreek Hill.
Et ça, c'était pour le mettre un peu aussi en cause parce que là, c'était juste sur cette saison, mais c'était aussi pour le mettre sur cette stat qui remonte à 2020. On peut remonter à 2020. On a déjà eu des très bonnes saisons en réception. C'était pour montrer que même sur les 3-4 dernières années, en fait, ce qu'il fait cette saison n'a aucun équivalent. Même la saison de Cooper Cup, il me semble, je sais plus, 2020-2021, où il est excellent. Brandon Ayuk aussi cette année qui est excellent. Et ben en fait, il n'y a rien de comparable à ce qu'il fait aujourd'hui.
Oui, le classement, c'est Hill 2023, Ayuk 2023, Collins 2023, Hill 2022, Cup 2021.
C'est ça.
Bon. Donc ce serait Tyreek Hill si c'était pas un quarterback. Pardon, je suis revenu juste sur moi, c'est mieux si on te voit toi aussi. Christian McCaffrey, il n'y a pas de stats qui le donnerait quarterback. Là, on est entre nous, on n'a pas de graphe ou quoi, mais il n'est même pas dans la discussion statistiquement.
Moi, je comprends qu'il soit dans la discussion. Après, c'est plus une question aussi philosophique sur la vision du football aujourd'hui. Mais Christian McCaffrey, il a l'effet wa. Je trouve que c'est un joueur incroyable. Mais comme beaucoup de running back, malheureusement, et même s'il a son impact en plus dans le jeu de passe, il peut faire des très bons matchs. Ça empêche pas forcément les 49ers de perdre.
Ça c'est vrai. Il y a eu le débat, je le dis, dans la rédaction hein, même aujourd'hui, de savoir Christian McCaffrey, Brock Purdy, Lamar Jackson, etc., etc. Donc, on a dit, pour résumer sur les stats, pour finir là-dessus, le MVP statistique, donc c'est Brock Purdy, si je comprends bien. Puisque
selon la stat de base, sans équivoque.
Voilà, puisqu'il est numéro 1 sur donc, le PA, depuis 2016, le mec qui est numéro 1 sur le PA, il gagne. Donc ça, voilà. Et en plus, il bonifie ses receveurs, il ne gagne pas que sur les courses après réception, etc. etc.
Non, alors là, celui-là, c'était plutôt justement pour dire que les receveurs en plus ajoutaient.
Oui, voilà. Ça bonifie. Donc, pour toi, statistiquement, c'est Brock Purdy. Si tu avais un vote aujourd'hui pour le titre de MVP, tu voterais pour qui, toi qui es plutôt porté stats? Est-ce que tu voterais du coup pour Brock Purdy?
Selon quelle définition du MVP?
Selon celle que tu veux, puisque visiblement on n'en donne pas aux gens qui votent. C'est bien tout le problème de ce trophée, à mon avis, mais c'est un autre débat. Mais si honnêtement, je pense que les gens qui votent ont chacun leur philosophie du truc, hein, de ce que je comprends. De toute façon, c'est comme la règle des réceptions. Je crois que la NFL s'en fout d'avoir une définition, mais comme tant que ça fait parler. Donc, tu votes selon ce que tu veux. Si tu avais un vote, tu voterais pour qui?
Non, alors, si j'avais. En fait, j'ai deux options. Forcément, je suis obligé de le considérer un peu dans la NFL actuelle et de ce qui se passe et de comment on vote. Lamar Jackson paraît un peu le choix évident parce qu'en plus, on sait que ça joue beaucoup. Sur les matchs de fin de saison, il a été très bon. On sait que c'est un énorme impact sur ce que décident les votants. Et Purdy a eu ce match-up l'un contre l'autre qui est, malheureusement, ça n'a pas vraiment de sens de le dévaloriser là-dessus puisque les deux quarterbacks ne s'affrontent pas vraiment l'un contre l'autre. Mais oui, je le donnerais à Lamar Jackson.
Oui, tu fais bien de parler des quarterbacks et des affrontements. Le fait que les Ravens aient déglingué les 49ers et les Dolphins à la suite, ça paraît quand même jouer un petit peu dans la décision. Après, moi, je suis un peu comme toi. C'est que je me pose la question de ce qui fait le vote et je regardais les gens débattre dans la rédaction sur le chat tout à l'heure aussi ce matin et cet après-midi. Moi, je suis bête et méchant, je vois valuable, donc c'est valuable qui apporte de la valeur et je me dis c'est celui où si tu le retires de son équipe, il y a le plus gros delta entre ce qu'il gagne et ce qu'il perd. Donc là-dessus, moi, j'irais sur Lamar Jackson aussi, au sens où, et c'est horrible de les pénaliser pour ça, mais que ce soit Brock Purdy comme Christian McCaffrey, je vois des 49ers qui ont joué un Super Bowl avec Garoppolo et sans McCaffrey. Et Kyle Shanahan et son système offensif, etc., etc. Alors, il bonifie ça, il le rend meilleur, il le rend plus fort. Il n'y a aucun problème là-dessus, aucun débat. Mais le fait est qu'il gagnait des matchs avant que McCaffrey arrive. Je ne sais pas ce que feraient les Ravens s'il n'y avait pas Lamar Jackson. Donc, si tu pars de cette définition-là, valuable, oui, moi, je voterais Lamar Jackson aussi. Après, le problème, c'est qu'il faudrait créer un trophée meilleur joueur, pur talent, j'en sais rien comment ils appellent ça, et puis un trophée valuable où on dit aux gens, vous votez que sur la valeur du mec dans le truc. Mais après, je suis pas statisticien, mais je comprends qu'on dise, et je vous vois sur le chat dire oui, mais c'est délit de sale gueule si c'est pas un quarterback, si c'est pas machin, etc. Mais si on se tient à la définition de valuable, mais malheureusement, on vit dans un contexte où c'est le poste le plus important de ce sport, donc, par la force des choses, c'est souvent eux, mais.
En fait, ce qui est un peu flou sur le titre de MVP, c'est que finalement, on n'y lit pas vraiment le plus valuable. On va prendre le plus performant, mais d'un autre côté, on va forcément élire un quarterback parce que c'est le plus valuable de son équipe.
C'est ça. Donc, et après, ceci étant dit, on parle de délit de sale gueule pour le coureur, etc. Mais à une époque, il y avait des coureurs qui étaient MVP parce que c'était une NFL des années 90 où on courait ou des années 80 où on courait. Et la NFL a évolué aussi. C'est pas devenu un délit de sale gueule, c'est parce que la NFL a évolué, le poste a évolué et que maintenant, on joue de telle manière que le quarterback est devenu indispensable. Donc, je sais pas si quand il y avait des running backs qui étaient MVP, les quarterbacks disaient, mon Dieu, c'est horrible et tout. Non, c'est parce qu'on donnait 30 ballons par match un coureur par équipe et que le meilleur prenait des fois le trophée, quoi.
Et puis en délit de sale gueule, on peut penser aux pauvres offensive linemen
qui n'auront
jamais le vote dans leur carrière.
Mais tu vois, après, c'est vraiment d'autres débats, mais dans ce cas-là, tu fais un joueur meilleur talent offensif, meilleur talent défensif de l'année, et puis basta, et puis voilà. Mais après, on sait ce que c'est, il faut vendre des maillots, des trophées, des machins, du temps d'antenne, de la dispo presse, faire parler, etc. Donc MVP, ça fait parler. On voit bien, on est en train d'en parler. Donc voilà. On va parler un petit peu d'une autre stat. On a quelques temps pour montrer un petit peu. Tu m'avais envoyé d'autres slides. Hop, je vais faire ça et je vais mettre ça à l'antenne. Alors NFL Team Tiers 2023. Alors explique-nous ce qu'on voit à l'écran en abscisse et en ordonnée. Je sais même plus c'est quoi l'abscisse et ordonnée.
Abscisse
c'est en bas et ordonnée c'est
en bas,
haut.
Non, ordonnée c'est vertical. c'est comme on avait discuté de faire un petit bilan sur la saison, j'avais préparé quelques graphes, celui-là n'est pas de moi, mais sur les niveaux de chaque équipe, du coup c'était en abscisse, donc en bas, plus on est à droite, plus l'équipe est forte offensivement, plus on est vers le haut, plus l'équipe est forte défensivement.
Ok, donc j'aime bien celui-là est clair parce qu'on peut clairement dire les 49ers sont bons, les Jets sont nuls.
Exactement. On est...
Celui-là,
donc, à partir de là, le graphe est forcément juste.
Celui-là, voilà. En attaque, donc en attaque, plus t'es à droite, donc les Niners sont la meilleure attaque, les Jets sont la pire attaque, et les Browns sont la meilleure défense, alors. Et les Cardinals, la pire.
Exactement.
Mais il est bien celui-là parce qu'il est assez net quand même pour donner un aperçu. Donc les Ravens, c'est très très fort, par exemple. La défense est très très haute et plutôt à droite. Là, ce qui se détache, donc c'est quoi pour toi les meilleures équipes? C'est vraiment le quart en haut à droite, quoi.
C'est vraiment le quart en haut à droite. C'est là qu'on voit que l'AFC cette année est quand même très très présente. On a les 49ers sont sans doute, malgré le match-up avec les Ravens, seront, et je pense s'ils se rencontrent au Super Bowl, seront fort légèrement favoris, malgré ce qui s'est passé en fin de saison régulière. L'équipe qui me fait un peu sourire, c'est les Bills, qu'on a beaucoup enterrés, qui sont même pas sûrs d'aller en playoff, sont finalement toujours une des meilleures équipes de la ligue. Donc, ce qui est toujours intéressant sur les, on va dire, la narrative des médias sur comment se déroule la saison, puisque factuellement, c'est dans le jeu une des meilleures équipes de la ligue, toujours.
Faut noter qu'ils sont collés aux Dolphins, qui sont l'équipe qui peuvent les sortir ce soir en plus. Hein, donc,
exactement, oui.
Ouais, c'est assez dingue. Chiefs, Chiefs, c'est presque une surprise, non, quand même, de les voir. Ou est-ce que c'est parce qu'on attend tellement d'eux qu'on ne réalise pas qu'ils sont encore très solides?
En fait, alors déjà, ils ont une défense qui est particulièrement solide cette année.
C'est vrai.
C'est assez peu discuté, mais ils ont vraiment une défense assez monstrueuse. Et on parlait de valuable, mais je pense que Patrick Mahomes porte encore et porte énormément cette équipe. Parce que justement, quand on associe au visionnage des films, le nombre de receveurs qu'ils ont au-delà des drops, les receveurs qui ne finissent pas leur route, qui se plantent de tracé, je pense qu'ils sauvent les meubles et qui permet à cette attaque de ne pas être ridicule à ce stade de la saison.
Il y a Rockpnage, pardon, j'ai toujours du mal avec ce pseudo, qui nous dit, c'est vrai que la défense des Eagles, c'est un peu une des surprises de ce graphe. Très, très bas.
Oui, mais sur les derniers matchs, c'est quand même beaucoup moins une surprise parce qu'ils ont quand même ils ont eu énormément de mal. Ils ont perdu énormément de joueurs aussi à l'intersaison. Donc c'est pas même avec l'arrivée de Shane Desai, on sent qu'il y a quand même après Patricia est arrivée, enfin il y a quand même un problème d'autorité et d'effectif sur cette défense cette année.
Il y a Orlin qui nous fait remarquer les Vikings en bon normand sont pile au milieu. C'est vrai que Vikings Colts là c'est paf pile au milieu. Et donc pour finir sur celui-là, Jets et Giants en fait les deux équipes de New York. Hein. Sont les pires.
Oui, avec les Panthers sont dans le parce que si on prend les diagonales qui expriment un peu des tirs, enfin des comment dire, genre les meilleurs et tout ça, des catégories similaires.
Ah oui, d'accord.
Ouais, on a une belle triplette.
Ah oui, ok. Donc les diagonales, tu les regroupes en fait un peu ensemble, quoi.
C'est ça. Tu fais un peu une combinaison. Alors c'est pas vrai, mais tu sais du coup de mix bonne défense, bonne attaque. Quoi.
D'accord. Ok.
Et
très bien.
Tu crées des catégories. Donc t'as tes 49ers un peu tout seul, Dolphins, Cowboys, Bills et Ravens,
ouais.
et ainsi de suite. Et là, dans le dernier tir, tu as Jets, New York, Panthers et les Patriots qui pointent le bout de leur casque.
Ouais. On passe au suivant. Ça, alors, profondeur moyenne de lancer en 2023. Pardon.
C'était pour... parce que comme on avait parlé de faire un petit bilan sur la saison, je pense que ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a vraiment une révolution offensive et défensive, surtout en NFL, qui est amorcée depuis voilà, 2 ans. Parce que on avait quand même sur les 10 dernières années depuis 2010, on a un peu l'impression que les attaques carburent et les règles vont dans leur sens et rien ne semble les ralentir. Il y a eu un vrai changement en NFL à partir de la saison 2015-2016 sur la façon de jouer des attaques et notamment la façon d'attaquer le terrain. Avec notamment en grande partie la défense de Vic Fangio, qui a commencé à remplacer la cover 3 de Pete Carroll, qui avait pris d'assaut toute la ligue. On a commencé à jouer beaucoup plus avec 2 safety dans le fond du terrain plutôt qu'avec 1 pour empêcher de se faire battre en profondeur. Et ça se ressent sur les 3 dernières années énormément avec des attaques qui, sur les 2 premiers downs, attaquent très peu le fond du terrain et ont plus tendance à viser des zones courtes et laisser les receveurs, le schéma en particulier, faire le boulot.
Ok, ouais, donc c'est vrai qu'on lance plus court, pour résumer.
Exactement.
L'évolution du pourcentage de courses en premier, deuxième down.
Ça, c'est parce qu'on a toujours cette discussion sur à quel point évolue la NFL sur l'ère de la passe, l'ère de la course. Alors, on n'est pas sur des pourcentages, parce que alors là, le graphe fait des grandes descentes. Hein, on passe de
0,47 à 0,50.
Ouais. Donc, on n'est pas non plus déjà... c'est pas si évident que ça. Mais c'est surtout... quelque chose qui dépend énormément des tendances offensives. Et ce qui est très marrant, c'est que la réponse de la Ligue, des attaques de la Ligue à partir de 2020, c'est de remettre de la course par rapport à ces défenses qui jouent avec deux safety. C'est de remettre de la course parce qu'on a un défenseur en moins dans la boîte et on pense qu'on pourra attaquer plus facilement le centre du terrain. Et en fait, cette année, par contre, c'est tout l'inverse. Les attaques ont dit, en fait, finalement, la course n'est pas si utile que ça dans ces situations-là et vaut mieux passer sur ces situations-là.
Donc ça, c'est intéressant, c'est de voir, hein, il y a une sorte de ping-pong en fait entre les coordinateurs offensifs et défensifs qui se jouent à travers tout ça. On s'adapte, on change un peu une défense qui fait modifier les attaques, etc., etc. Du côté, alors ça, bon, ça c'est le graphe Raphaël Masmejean, on l'appelle.
Exactement. Ou Brandon Staley aussi, mais.
Et Brandon Staley, mais ça lui a pas réussi.
Oui, c'était bon, histoire de faire un point là. Par contre, là, c'est assez évident. C'est sur comment les quand est-ce que les coordinateurs tentent des quatrièmes tentatives. Et là, on est sur une évolution, même si ça se stabilise un peu ces dernières années. À l'ère des stats avancées et des accès en plus aux stats avancées par les staffs des équipes, on tente énormément de quatrièmes tentatives par rapport au début de la décennie.
En gros, ça a doublé.
Ouais, quasiment. Ouais.
Ça a doublé. Les motions, alors ça, il faut rappeler ce que c'est. Hein, c'est quand il y a du mouvement avant le snap, que vous voyez des receveurs, des fois, qui montent, qui descendent sur votre écran quand vous regardez la télé. Et donc, ça aussi, ça bouge beaucoup. C'est le cas de le dire, Clément.
Oui, alors pourquoi j'ai voulu parler de cette stat? Parce qu'on a un peu parlé en amont avec Tyreek Hill. C'est, je pense, la plus grosse révolution offensive de la NFL des dernières années. On est passé quasiment en 5 ans, on a doublé le nombre de motion en moyenne par équipe, donc qui est de faire bouger des joueurs avant le snap. Les Dolphins l'incarnent particulièrement avec Tyreek Hill qu'ils envoient sur la nouvelle, ce qu'ils appellent la cheat motion, qui est un peu une invention de McDaniels, sur de bouger horizontalement Hill juste avant le snap et de quelques mètres pour lui donner un surplus de vitesse. Et on voit surtout à quel point bah, c'est un peu le même arbre de coaching, hein, Dolphins, Rams, 49ers, Packers, donc oui, l'arbre Shanahan, quelle domination il a aujourd'hui dans la NFL actuelle.
Oui, c'est vrai que c'est assez dingue. J'avais même pas fait attention quand tu le dis, mais oui, McDaniel, Sean McVay, Kate Shanahan, Matt LaFleur, tout ça, ça vient du... Ça a les mêmes bases, quoi.
Exactement. Et c'est pour moi, et c'est ce système-là qui rend l'évaluation statistique extrêmement difficile des quarterbacks aujourd'hui, en tout cas des quarterbacks dans ces systèmes. Parce qu'en fait, c'est un système qui est tellement généreux pour les quarterbacks, parce qu'il met toujours les cibles dans les meilleures conditions, dans les meilleurs mismatchs, enfin, toujours en face à un linebacker, toujours dans les interzones. Et avec en plus une difficulté d'adaptation des défenses parce qu'il y a énormément de motion. Du coup, en fait, faut toujours savoir qui prend quel joueur. On a vraiment, ces systèmes sont d'autant plus difficiles à évaluer, mais sont extrêmement performants.
Alors, juste pour préciser, parce qu'on a snap motion et motion pourcentage, c'est quoi la différence entre les deux là?
Snap. Attends, j'ai un doute. Snap motion. Pour moi, c'est que le motion pourcentage, c'est qu'en fait, c'est au total si tes joueurs bougent avant le snap.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire
oui.
que tu as un changement en pré-snap, mais qui ne part pas lancé. Et pour moi, snap motion sont quand les joueurs partent lancés.
D'accord, ok, très bien. Ok, on termine avec... Bah, c'était la fin de ça. Et donc, oui. Les Eagles sont ceux qui l'utilisent le moins, cette tactique.
Exactement, et c'est d'ailleurs revendiqué par cette attaque des Eagles et par les coordinateurs offensifs. Mais les Eagles, oui, sont une des attaques les plus, on va dire... conventionnel aujourd'hui.
Ah oui, clairement 9,6 et 24%, je remets le précédent, mais à Miami 81%, ça veut dire que... Oui. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, sur le coup tu fais pas toujours attention, mais c'est vrai qu'en les commentant ça bouge énormément, sur Miami. Donc oui, là pour être clair, Miami 80%, 81% du temps avant le snap, il y a des joueurs qui bougent, soit qui partent lancer, soit qui vont au moins changer de position, alors que du Exactement. Côté de Philadelphie, c'est seulement 9,6% qui partent lancer et à peine 25%, même ça c'est très très bas, c'est deux fois moins élevé que Washington par exemple. Alors ça varie pas mal, mais c'est quoi, ça va être 30%, 33% au-dessus, c'est quand même significativement plus bas que toutes les autres équipes.
Et je pense qu'on a une c'est pas étranger au problème que peut rencontrer l'attaque des Eagles en fin de saison, où elle est devenue plus facilement lisible par les défenses adverses. En plus qu'on est dans une, enfin on n'a pas tant que ça parlé, mais on est vraiment dans une, depuis 2 ans on est sur une résurgence des défenses en NFL qui s'est adaptés déjà au système, aux dernières évolutions offensives. Les défenses se sont toutes adaptées. Mmh. Et là, on a des nouvelles attaques. Enfin, on a McDaniels, Shanahan et tout ça qui, en plus, repartent, eux, dans une vague d'évolution. Et bah, pour l'instant, il y a encore des équipes qui sont laissées sur le carreau. Mais ça devrait évoluer l'année prochaine ou dans 2 ans, puisque, comme on dit souvent, la NFL est une copycat league. Mmh.
On se copie en NFL, en effet. En tout cas, vous le voyez, c'est les tendances. Miami, ça bouge beaucoup. On tente plus de quatrième tentative. Je résume grossièrement, hein, tu m'arrêtes. Je vous résume tout ce qu'on a dit. On a moins de courses cette année, alors qu'il y en avait eu un peu plus l'année dernière. On lance moins en profondeur parce que les défenses se sont adaptées sur les premières tentatives. Et puis là, la carte des équipes NFL, on le disait, statistiquement, San Francisco semble quand même devant, meilleure attaque et bonne défense. Les Ravens sont une meilleure défense mais moins bonne attaque légèrement, et puis il y a un petit groupe avec les Cowboys, les Bills et les Dolphins également qui se sont quand même pas mal manifestés en positif cette année. Voilà pour le petit point. Merci beaucoup Clément pour ce point statistique. Bah,
merci à toi pour l'invitation.
Et ben merci à toi, ça a été très apprécié. Attends, il y a quelqu'un qui nous a dit, voilà, DJ Starkiller qui dit: gardez ce prodige des stats, sa magie est puissante. Je vois mieux comment pensent les Américains grâce à ça. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Là, tout est dit sur ta magie, moi, je trouve.
Les Américains sont pas forcément très fans des stats avancées non plus. Hein. Ils aiment bien les.
C'est vrai.
Ils aiment bien les yards, les touchdowns, les interceptions.
C'est vrai. Ouais, mais c'est bien d'avoir des gens qui, comme toi, qui savent expliquer des choses un peu compliquées à des gens comme moi qui ne comprennent pas ce qu'est un abscisse et une ordonnée, tu vois. Et là, tu vois, tu m'as éclairé également. Donc voilà.
Merci. Alors, je prends le compliment.
Ouais, voilà. Merci de la part d'un littéraire, tu vois. J'ai réussi à comprendre ces stats et à accrocher. Donc voilà. En tout cas, tout le monde te remercie sur le chat. C'était très intéressant. Merci. Sponsorisé par Excel, nous dit Bill Swirsky. Ben non, c'est quand même plus joli que des Excel en plus. Je vous remets. Attendez, c'est joli ça quand même.
Il y a eu un peu de Excel. Les graphes sur Tyreek Hill, c'est du Excel. Le reste, c'est du. C'est un logiciel qui s'appelle R qui permet de manipuler des bases de données de statistiques.
Oh là, là, on est dans les trucs d'experts là. C'est un logiciel gratuit. C'est un logiciel gratuit ou pas?
Il y a pas longtemps. C'est gratuit.
Ah, c'est gratuit, parce que j'allais dire, s'il a des logiciels de stats payants et tout, là, on voit les. Là, c'est les experts, quoi. Ça rigole pas.
Ah, mais je suis pas statisticien à la base. Hein. Je me suis mis. Le sujet m'intéressait au NFL. Je faisais du Excel il y a quelques années. Et il y a eu la vague de statistiques avancées. Il y a eu pas mal de tutoriels là-dessus qui popaient un peu sur le web. Mais je suis très mauvais en code et j'ai juste un peu tout rattrapé d'un coup.
Écoute, merci beaucoup, en tout cas, Clément. On te dit à très bientôt.
Merci Alain, salut, bonne fin de saison à tout le monde.
Merci de même, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.